Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
Vous écoutez
Martino,
Cube Radio.
Alors, nous parlons à Denise Bombardier qui est avec nous. Bonjour, Denise.
Oui, bonjour. Ce matin, je vais vous parler sans beaucoup d'émotions. Parce que quand on est habité par trop d'émotions, on se noie dans ces émotions. Je veux vous parler de l'offensive actuelle. À mon avis, plus grave que ce qu'on a connu avant, contre les lois linguistiques du Québec qui servent simplement à confirmer l'identité québécoise. Là, on dépasse toutes les bornes. Ce matin, Richard, et vous avez dû le voir, dans Le Devoir, l'association des orthopédistes et des audiologues, les gens qui travaillent auprès de gens qui ont des problèmes d'expression, des problèmes physiques aussi, bon, et qui travaillent beaucoup avec les enfants, quand on dit les enfants ont besoin de... Bon, ils dénoncent la loi 96 dans les termes suivants. La loi 96, disent-ils, porte atteinte à la liberté professionnelle des orthophonistes et audiologues, surtout les professionnels bilingues, autochtones, noirs ou racisés. Voulez-vous m'expliquer? Parce qu'ils reconnaissent, disent-ils, la valeur du français comme langue commune au Québec, mais ils craignent que tous les orthophonistes et audiologues, ceux qui pratiquent dans une langue autre que le français, il y a beaucoup de petits-enfants, effectivement, qui arrivent, les derniers arrivants, qui ne parlent pas nécessairement, d'abord, le français, au début, parce qu'il faut qu'ils l'apprennent, et en plus, c'est que la langue à la maison, quand ça fait pas longtemps qu'ils sont ici, la langue à la maison est une troisième langue. C'est même pas l'anglais. Alors, donc, ils disent qu'ils pourront plus avoir de service parce que les professionnels vont être pénalisés par l'adoption du projet 96 parce qu'ils pourront pas demander l'intervention d'un interprète à moins que leur usager réponde aux critères d'exemption. Alors, ils disent on pourra pas les soigner. Mais c'est exactement l'équivalent de ce qui s'est dit au sujet de la loi quand on a dit que les gens ne pourraient pas se faire traiter autrement qu'en français après 6 mois. Il faut reconnaître, Richard, et ça c'est important, que ces projets de loi-là ont été très mal écrits par les responsables, les fonctionnaires, qui ont à les écrire, donc qui ont une formation en droit. Mais il est évident, parce qu'à ce moment-là, le ministre est obligé de dire « Mais non, c'est pas vrai. Il n'y a pas personne au Québec qui va se présenter à l'hôpital avec une maladie, quelle qu'elle soit, et à qui on va refuser de parler anglais. »
Mais est-ce que ces gens-là ont lu... Est-ce qu'ils ont lu la loi? La loi, elle est claire. Tout ce qui concerne les soins de santé, vous avez le droit d'utiliser une autre langue que le français. C'est écrit noir sur blanc, calvaire.
Noir sur blanc. Jusqu'à ce que l'expression noir sur blanc, et vous savez que ça a été le grand succès du début de ma carrière, cette émission, il n'y a pas une émission maintenant qui pourrait s'appeler d'ailleurs noir sur blanc à la télévision. Mais c'est exactement ça. Et ça continue, et là, ce sont des orthophonistes ce matin qui nous mettent en garde, et c'est signé par quelques-uns d'entre eux, dont évidemment des Québécois de souche, on a juste à voir les noms. Alors donc, ça veut dire que nous sommes dans une période de déraisonnement, si vous me passez l'expression, on déraisonne à l'heure actuelle, et ça indique une volonté plus grande, presque aussi grande que celle qu'on a sentie, parce que vous aussi, vous l'avez connue, au moment du dernier référendum, parce que celui d'avant, vous étiez, bon, en 80, vous étiez quand même vacciné, baptisé et vacciné, de la sorte de pression et de peur qu'avait le Canada anglais vis-à-vis cette possibilité que les Québécois votent pour l'indépendance du Québec. Mais là, maintenant, c'est plus la même chose, parce qu'il y a une sorte de glissement dans la mentalité des anglophones du Québec, parce qu'il y a une partie des anglophones du Québec qui sont partis après les deux, à 20 ans, en 80, et puis après, en 95, qui ont quitté le Québec, parce qu'ils ne voulaient pas de ce Québec-là. Mais il y en a d'autres qui ne sont plus là parce qu'ils sont les vieux, la vieille communauté anglophone là, qui avait de la difficulté et qui a fini par s'adapter, qui parlait français, on les rencontrait, des journalistes de la Gazette et de Montreal Star à l'époque qui pouvaient parler français. Bon, cette génération-là n'est plus là. Où elle ne prend pas position. Mais on sent qu'ils ne veulent plus. Et là, les tribunaux et la fameuse clause nonobstant, parce que le nonobstant, là, ça a été une concession que Trudeau a donnée, parce qu'il y avait d'autres provinces qu'il voulait, pas pour la langue, mais pour d'autres choses. En Alberta, c'était pour d'autres choses. En Saskatchewan, c'était pour d'autres choses. Toutes les provinces peuvent se référer à la clause nonobstant.
Non, mais là, le Québec est devenu là comme le paratonnerre qui attire toutes les foudres. C'est fou, là.
Oui, exactement. Oui. Et les Québécois d'aujourd'hui, ceux des générations plus jeunes, n'ont pas reçu la même éducation et les mêmes valeurs que nous avons reçues. Et ils baignent littéralement dans ce climat, cette espèce de rêve complètement déraciné de tout, d'une société multiculturaliste où chacun est son propre univers et où la liberté de la personne est plus importante que toutes les libertés collectives. Ce sont les mêmes, doit-on avouer, qui vont exiger par ailleurs des subventions en tant qu'appartenant à un groupe, n'est-ce pas? Mais ce sont plus, c'est pas parce qu'ils sont francophones, c'est parce que ils appartiennent à une minorité sexuelle, ils appartiennent à une minorité religieuse, mais comme par hasard, l'argent collectif qu'ils peuvent exiger, ils vont l'exiger. Mais on ne peut pas vivre, et le rêve de la société post-nationale que Trudeau devrait se faire un drapeau autre que le drapeau canadien quand il débarque à l'étranger, puisqu'il est l'incarnation, il se voit comme l'incarnation de la société de demain, puisque le Canada, c'est ça, c'est une société post-nationale, où il n'y a plus de revendications identitaires, où il n'y a plus de revendications nationalistes. Où il n'y a plus, d'ailleurs, vous avez bien remarqué que même vous et moi, ça nous, dans notre carrière, il nous arrivait de parler de la nation québécoise. Fini, c'est la nation québécoise. Mais quand on regarde vers l'Europe, on se rend compte que les revendications nationales recommencent. Et ça va être le cas en France, où les deux grands partis modérés, hein, les socialistes et ce qu'on appelle les républicains, qui étaient en fait la réponse actuelle aux grands partis gaullistes, n'existent plus, ont été lessivés. Et vous vous retrouvez avec l'extrême gauche délirante de Mélenchon et avec l'extrême droite, moins délirante maintenant, mais l'extrême droite tout de même de Marine Le Pen. Et Macron flotte entre les deux. Parce que vous savez que Macron, ça n'a jamais été un ami du Québec, au sens où les dirigeants français appuyaient les revendications nationales, nationalistes, et surtout la défense de la langue française telle qu'on le faisait au Québec. Macron, il a décroché tout ça. Et tous ses prédécesseurs ont été plus ou moins sensibles, et certains très sensibles, dont Michel Rocard, qui a été le seul premier ministre qui appuyait l'indépendance du Québec au moment où il était premier ministre, et puis il y a eu à partir du général de Gaulle, mais ils ont tous été des observateurs plus qu'attentifs du combat pour la langue, qui est notre combat commun.
Mais regardez là, François Legault, son gouvernement a adopté la loi 96, qui ne va peut-être pas assez loin, mais qui est quand même un pas en avant, et a adopté la loi 21, qui ne va peut-être pas assez loin, mais qui est quand même un pas en avant. Et regardez les résultats de sondage. 46% des Québécois sont derrière lui. Il trône en haut des sondages. Donc, je veux dire, il est en diapason avec la population québécoise, là.
Oui, mais attention, les adversaires maintenant vont vous faire le décompte en disant il y a tant de pourcents de Québécois qui ne sont pas allés voter aux dernières élections, donc le 40% ne concerne que ça devient presque 60% des francophones, donc les autres ne sont pas représentés. Ils se mettent à jouer sur ces chiffres-là. De la même façon, d'ailleurs, on sait très bien que ces lois-là vont aller se faire tester par la Cour suprême, mais ça c'est dans l'année 24, 25.
Ben, c'est 26, ça, c'est dans plusieurs années là.
Ils se battent déjà actuellement pour ça. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point maintenant. C'est une nouvelle génération de porte-parole anglophones du Québec qui ne mettent plus de gants, qui considèrent qu'ils sont d'abord, sinon totalement, des Canadiens et non plus des Québécois.
Oui, c'est ça. Ils sont maintenant décomplexés, là. Ils aiment les Québécois en autant.
Ils ont tout ce qu'il faut.
En autant qu'ils acceptent d'être.
Ils ont des scolaires. Ils ont des hôpitaux. Ils ont des services sociaux. Et ils ont l'appui de tout le Canada anglais. Donc, ils sont majoritaires. Ils ont repris l'esprit majoritaire. Ça n'existe plus. Il n'y a pas de minorité anglophone au Québec. Il y a la majorité anglophone qui vit au Québec de façon circonstancielle, pourrait-on dire.
Tout à fait. Et ils nous aiment quand on accepte d'être une communauté culturelle parmi tant d'autres, quand on accepte d'être, nous, une minorité au sein du Canada, plutôt qu'être une majorité au sein du Québec. Ils aiment pas ça. Ils aiment ça quand on est en minorité et eux en majorité. Merci beaucoup, Denise. Bon week-end malgré tout.
Merci.
Oui.